Vous écoutez RTL. Est un vilain défaut.
Officiellement, en Russie, les sociétés militaires privées n'existent pas. Pourtant, il suffit de faire un petit tour sur la toile pour découvrir une dizaine de compagnies de ce type.
RTL. La Russie est l'héritière de l'Empire byzantin et donc du droit byzantin. Ce qui n'est pas interdit est autorisé.
Jusqu'à 22h,
certaines proposent des missions de sécurité en Irak. D'autres, des formations menées par d'anciens hauts gradés de l'armée russe.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On le surnomme Pacha. Paul-Henri Guiter est commandant d'un groupe d'intervention rapide russe, une société de sécurité privée qui compte 5000 hommes. On découvre son destin avec l'écrivain Jean-Louis Michel. Jean-Louis Michel, Pacha, c'est un ancien soldat.
Thomas, je m'appelle Jean-Louis Bachelet.
Jean-Louis Michel, oh bah oui, c'est mieux avec Jean-Louis Michel.
C'est mignon.
Je sais pas, j'essaye de trouver une excuse, mais il n'y a pas de raison, si ce n'est d'avoir écrit trop vite.
Appelez-le.
Surtout que je vous ai appelé Jean-Louis Bachelet tout à l'heure. Hein. On peut m'appeler Jean-Michel à peu près.
Oui, oui, voilà, Jean-Michel à peu près pendant un quart d'heure. Vous avez
quoi
le droit.
Votre surnom à vous déjà?
Micheline Presque.
Micheline Presque, voilà. On est les présentateurs de La Curiosité. Est une belle qualité sur RTL3. Voilà, bon, allez, on va s'y remettre.
Bon, de toute façon, vous êtes tout excusé.
Jean-Louis Bachelet. Donc,
comme on fait une émission sur la Russie, vous avez dû boire un peu de vodka avant.
Même pas, ça serait une bonne excuse. Jean-Louis Bachelet, cette société pour laquelle il bosse, c'est quoi et qu'est-ce que ça représente en Russie?
Alors, il y a énormément de sociétés, de groupes de sécurité en Russie. Effectivement, elles sont souvent tenues par d'anciens militaires, hein, d'anciens officiers. Ce sont des sociétés qui assurent des missions de protection de structures de pipeline, de structures pétrolières, aussi quelques missions rapprochées et aussi quelques missions d'antiterrorisme. Alors, leur particularité, c'est qu'elles sont dotées de groupes d'intervention rapides qui permettent d'agir très rapidement, précisément, sur des théâtres d'intervention urgents.
Et notre Français, Paul-Henri Guiter, il a quel rôle? Il a un grade dans cette
société? Oui, il est commandant là-dedans. Il est commandant là-dedans, c'est-à-dire qu'il a un groupe à lui et il intervient sur les missions qui lui sont données.
Jean-Louis Bachelet, vous avez coécrit avec Paul-Henri Guiter L'Étoile Noire, un aventurier au cœur de la Russie souterraine. C'est publié aux éditions Artaud. Vous êtes allé en Russie pour voir où et comment il vit?
Sidonie, je suis toujours fourré chez lui, donc effectivement, je connais. C'est un ami de très très longue date, effectivement, et j'ai assisté à sa métamorphose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le cadre d'abord dans lequel il évolue à Paris, dans le 4e arrondissement. J'étais souvent allé chez sa tante, une vieille demeure, vous savez, telle qu'il peut y avoir dans le 4e arrondissement, tout en boiserie, qui rappelle vraiment la France du 17e, du 18e. Et puis à Moscou, dans le centre de Moscou, ce qu'on appelle le centre de Moscou, pas très loin effectivement du Kremlin, vous avez son appartement, qui est un appartement, alors pour le coup, qui représente vraiment ce qu'il est. Vous avez une grande pièce, un salon, avec de grandes bibliothèques dans lesquelles il a entassé tous ses livres, notamment ses auteurs favoris, qui sont Kessel, Monfred, tous ces gens qui l'ont fait rêver quand il était jeune, ouais, et qui l'ont décidé effectivement à partir. Vous avez aussi des choses totalement, incroyables, comme une liqueur de crotal qui trône au-dessus de la bibliothèque. Vous avez, la première fois que j'ai vu ça, j'étais épouvanté. Vous avez un crotal dans un vase, on se demande ce qu'il fait. Enfin, il y a tout un ensemble de choses très, très bigarrées.
Et sur la table du salon aussi? Sur la table du salon?
Alors effectivement, sur la table du salon, il y a son arme fétiche qui est le Tokarev 33, qui est une arme qui est le pistolet emblématique de l'armée russe. Hein, c'est une arme qui a la particularité d'avoir une puissance de tir extrême. Elle a la réputation de traverser les gilets pare-balles. Hein, donc c'est une arme qui a très longtemps servi dans l'armée, qui a été aussi l'arme vraiment favorite des groupes mafieux dans les années 90. Un petit peu l'équivalent du Beretta en Italie. Vous voyez. Ouais.
Qu'est-ce qui fait que cette arme, c'est de la déco ou elle est chargée?
En général, quand on fait de la sécurité, vous savez, on ne la fait pas.
Il faut mieux avoir des armes chargées.
Comme les Aztèques avec des boucliers en coton.
Ouais. Et donc, ce pistolet-là, ce T-33, son surnom, c'est l'Étoile Noire.
C'est l'Étoile Noire.
Et donc, il a donné le titre à votre livre, coécrit avec Paul-Henri Guiter. Il vit donc dans ce quartier de Moscou où on peut croiser, c'est ce que vous racontez, on va dire la partie émergée de l'iceberg de la mafia russe, c'est-à-dire la mafia présentable.
Alors,
en quelque sorte.
Thomas, c'est une question très intéressante qui nécessiterait des heures. Je vais essayer de synthétiser en quelques secondes. En fait, il y a ce qu'on appelle en Russie les vorzakorni. Ce sont ce qu'on appelle les bandits dans la loi. Alors, quand on entend ça chez nous, les bandits dans la loi, on se demande ce que ça peut vouloir dire. Tout simplement, bon, effectivement, il faut revenir un petit peu à la genèse de cette mafia russe, qui est très ancienne. La mafia russe, elle s'est structurée dans les camps soviétiques. Ça a commencé par être tous ces gens qui ont été anticommunistes, droit commun ou non droit commun, et qui très rapidement, parce qu'au camp on n'y restait pas 2 ans, 3 ans, on y restait 10, 15, 18 ans. Ils ont constitué des sociétés extrêmement, organisées.
Et solidaires.
Et lorsqu'ils ont été libérés, ils ont perduré, tout simplement. Et à la faveur de la chute du mur de Berlin, à la faveur de la chute de l'Empire soviétique, ces sociétés-là ont fait main basse sur des grandes compagnies privées, et puis sont devenus des gens effectivement extrêmement influents et richissimes.
Donc c'est la mafia dans la loi.
Alors
c'est
dans la loi, pourquoi? Parce que là c'est un coup de Poutine. Poutine a fait un coup de maître, si je puis dire. Il ne s'agit pas de faire la pub de Poutine, mais enfin ce qu'il a fait vis-à-vis de la mafia est assez extraordinaire, et vis-à-vis des oligarques, et il leur a dit tout simplement: écoutez, vous êtes milliardaire, vous payez vos impôts et tout ira bien. Les impôts de ces gens-là servent à l'économie du pays. Dans certains districts, la mafia représente 41% du PIB de la région. Donc, si vous voulez, alors c'est pas la mafia telle qu'elle existe en Italie ou ailleurs.
Compris.
D'ailleurs, je ne veux pas faire du tout une parenthèse de mauvais goût, mais on pourrait très très bien dire aussi que nos multinationales qui dirigent aussi d'une certaine façon nos hommes politiques, c'est une forme de mafia aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas.
Ils n'ont pas été formés dans des camps de redressement pendant
18
ans.
Le terme de mafia est peut-être pas tout à fait exact.
Vous employez, Jean-Louis Bachelet, dans votre livre, souvent cette expression, la sainte crainte. C'est quoi?
Vous voulez que je vous l'inspire, Sidonie?
Non, j'ai pas très envie d'avoir peur ce soir, ni aucun soir de ma vie.
Crainte. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, en Russie, vous avez des gens qui ont gardé le sens des rapports humains élémentaires. C'est-à-dire que là-bas, outre le fait que les lois sont faites de telle sorte qu'on peut encore se taper sur la gueule dans la rue sans terminer au commissariat, vous avez quand même un respect instinctif de l'autre qui fait qu'effectivement, une petite tradition, si vous marchez sur le pied de quelqu'un, vous lui donnez votre pied pour qu'il marche dessus à son tour. C'est une espèce de...
Au cas où?
C'est-à-dire, on ne sait pas sur le pied de qui on a marché. Imaginez que ça soit quelqu'un de très important, ça peut être très très, très ennuyeux. Donc il y a
excuses, ça ne suffit pas.
Vous savez, les Russes sont pas très bavards en matière de politesse. C'est-à-dire que ce sont pas des gens qui vont dire forcément d'ailleurs ni bonjour ni au revoir, mais ils ont ce sens instinctif de la crainte de l'autre. Mais vous savez, c'est presque la crainte au sens mystique du terme. Ouais. C'est pas la peur, c'est le respect distant de l'autre.
Vous m'inspirez cette sainte crainte, Jean-Louis Bachelet, vous me l'inspirez.
Et en tout cas, vous avez intérêt, Sidonie.
Et en tout cas, c'est une notion que notre aventurier français Paul-Henri Guittert a bien intégrée pour vivre au cœur de cette Russie souterraine. C'est ce que l'on va découvrir. Comment ce fils de haut fonctionnaire français est-il arrivé là? Réponse dans un instant avec Michael Jackson qui nous emmène comme des étrangers à Moscou.
Comme vous, ils sont curieux. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, vous écoutez RTL.
C'est une plongée dans la Russie interdite, la Russie souterraine que l'on vous propose sur RTL. On découvre la vie de Paul-Henri Guittert, un Français qui vit à Moscou et travaille pour un groupe de sécurité russe. Alors ses missions, c'est agir quand l'armée ou la police d'ailleurs n'a pas la légitimité pour le faire. Il est donc toujours un petit peu à la limite de la légalité, votre ami Paul-Henri Guittert, Jean-Louis Bachelet.
Comme il le dit lui-même dans le livre, de toute façon, là-bas, ces groupes de sécurité, le code de procédure légale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'effectivement, chez nous, il faut absolument que tout soit contrôlé au quart de poil pour que s'il y a une arrestation qui se fait, ça soit fait dans les règles. Il y a un contrôle du contrôle du contrôle. Là-bas, non.
Mais ça veut dire quoi? On arrête qui on veut? On peut le chatouiller? On peut aller jusqu'à le tuer? Il y a un permis de tuer?
Ah non. Là, on peut pas aller jusque-là. Non. En revanche, vous savez, quand on a affaire à des gens extrêmement dangereux, il n'y a pas 36 manières, quelquefois. Vous savez, quand un Russe est dangereux, il est dangereux. Donc, effectivement, pour l'arrêter, il n'y a pas 36 manières. C'est la méthode musclée, la méthode forte.
Mais quand on dit que la violence est une composante de la société russe, ce n'est pas un cliché, c'est une réalité.
Ça a été une réalité dans les années 90, après la chute de l'Empire soviétique, après la chute du mur dans les années 90, au moment où, justement, toutes les mafias ont commencé à faire main basse sur une grande partie des richesses nationales, il y a eu liquidation, mais alors à gogo. C'est-à-dire qu'à Moscou, on a eu quelquefois 5000 morts par an. C'est-à-dire que ça a été très rapide. Donc, il y a eu effectivement une très grande violence pendant 10 ans. Maintenant, on va dire que c'est quand même beaucoup plus calme. En revanche, oui, ce sont des gens qui sont, je dirais pas qu'ils sont belliqueux, mais qui ont une culture du conflit. une culture de l'affrontement. Il faut voir, regarder un petit peu leur histoire. Bon, je ne parle pas de la Grande Guerre patriotique, parce que nous aussi, on l'a vécu, la Grande Guerre patriotique. Mmh. Mais l'Afghanistan 10 ans, la Tchétchénie 10 ans, ce sont des gens qui sont en guerre depuis 30 ans.
Mmh. On va essayer de comprendre ce destin que vous nous faites découvrir, Paul-Henri Guiter. Cet homme, en fait, il vient de quel milieu? Vous dites, c'était votre voisin il y a 25 ans. Il est né dans un milieu plutôt bourgeois, plutôt...
C'est un fils de préfet, ouais. De la préfectorale. C'est
donc, un garçon... Haut fonctionnaire.
Voilà, c'est un fils, c'est un garçon qui a eu une enfance, mais l'enfance vraiment des petits nobliaux tels qu'on l'imaginait au début du XVIIIe siècle. Donc ça ne veut pas dire une enfance dorée forcément, mais c'est une enfance où on s'applique à donner une culture à son fils, où on s'applique à lui donner une éducation modèle, et de ce fait, on va le placer très rapidement dans les pensions de famille, grand luxe, hein, oui. Que sont les pensions Bartrobin, parce que c'est un garçon qui très rapidement s'est avéré être assez rétif à l'enseignement traditionnel.
Donc c'est quoi, des maisons de correction, les
non,
pensions,
pas du non tout, mais non, ce sont des maisons tout simplement dans lesquelles on exige de l'enfant, je dirais, un comportement et puis une assiduité en relation avec le résultat qu'on attend de lui.
Mais il s'est toujours rebellé contre ça.
Alors, rebellé, oui. C'est-à-dire que déjà, lorsque il m'a raconté cette histoire, d'ailleurs, très rapidement quand on s'est rencontrés, je trouve ça absolument savoureux, il a été mis au Prytanée militaire de la Flèche. Hein, qui,
Le Prytanée militaire de la Flèche.
Bon, c'est une école dans laquelle on met, soit à petit bas, on met les fils de hauts fonctionnaires, soit les gens qui se destinent à des carrières militaires.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens du Prytanée qui vont ensuite à Saint-Cyr, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Et alors, il y a tout un code d'honneur là-bas, effectivement. Et il commet sa première frasque un petit peu décalée en entrant dans le mess des officiers à cheval, sabre au clair, et là, bon, il se fait virer parce que effectivement on peut pas tolérer un tel comportement de la part d'un fils de préfet.
Son univers a aussi été l'extrême droite.
Alors, de ce point de vue-là, vous savez que c'est toujours délicat d'avoir à parler d'extrême droite quand il s'agit d'un jeune, et ça il le dit souvent, il est rentré dans l'Action française par esthétisme. Pourquoi par esthétisme? Parce que c'est un garçon qui lit tous ceux qu'on appelait à l'époque les hussards. Bon, il aime beaucoup les journalistes de guerre qui étaient les Kessel, il aime bien Monfred, il a lu effectivement Roger Nimier, il a lu Paul Morand, tous ces gens-là.
Donc, c'est Céline quelqu'un...
Céline, mais c'est pas quelqu'un qui est attiré par les idées d'extrême droite.
C'est quoi, c'est le décorum qui,
ben c'est le décorum. Vous savez, il y a une forme de dandysme, tel que le vivait aussi Baudelaire à son époque. Une forme de dandysme, une forme de posture par rapport à la réalité sociale, qui est une forme peut-être de révolte et qui s'exprime de cette façon-là. En tout cas, Paul-Henri n'a pas grand-chose à voir avec une personnalité d'extrême droite.
Ouais, il va finalement choisir l'armée française, il va faire un volontariat service long. Où est-ce qu'il va se retrouver? En Afrique, c'est ça?
Alors, effectivement, il choisit ce qu'on appelle un VSL. Je n'ai pas fait de VSL, moi. J'ai fait mon service militaire tout simple, tout propre.
Oui. C'est déjà bien. Moi, je ne l'ai pas fait du tout. Donc,
ah, vous voyez, voilà. Donc, volontaire service long, c'est à l'époque 18 mois. Ouais. Et on choisissait ça lorsqu'on voulait partir à l'étranger. Donc, il choisit les commandos de marine et il va choisir la Corne de l'Afrique, tout simplement par nostalgie de ce qu'il avait lu dans Monfred.
C'est là qu'il va y gagner un surnom.
Voilà, là, c'est là qu'effectivement, on va le surnommer Pacha. Alors, c'est comme ça que l'appelaient les gens du coin. Hein. Effectivement, ça lui est resté. Et puis maintenant, encore maintenant, on l'appelle comme ça, hein, Pacha. Et en Russie, il est appelé Pacha. Et alors, en Afrique, effectivement, bon, il va se retrouver d'abord dans une espèce de bureau miteux. Il va se rendre compte que ça n'a rien à voir avec ses rêves. Et puis, à la faveur de la défection d'un sergent, il va trouver un poste de consultant auprès des troupes de marine pour les transmissions en morse. Alors, c'est très amusant parce que vous savez, il raconte que nous on s'imagine toujours que vous savez dans que dans l'armée française on peut avoir des modes de transmission extrêmement sophistiqués. Ça, donc, eh bien figurez-vous que compte tenu de la configuration du terrain à Djibouti, eh bien le meilleur moyen de communication à l'époque était le morse.
D'accord. Alors la promesse quand même de ce livre, c'est une plongée dans la Russie souterraine. Comment il se retrouve en Russie? Comment il bascule de l'Afrique à la Russie?
Alors il y avait déjà eu un petit appel quand il était dans la Corne de l'Afrique, et il avait un Ukrainien avec lui, hein, qui déjà chantait des chansons ukrainiennes. Il voyait déjà un petit peu cette espèce d'imprégnation slave qui commençait à le titiller un petit peu. Mais finalement, la Russie ne représentait pas pour lui plus que ce qu'il en avait lu dans Kessel. Quand on lit notamment les aventures de Kessel en Russie dans le corps expéditionnaire français en 1921, effectivement, on ne peut être que fasciné de voir les descriptions que fait Kessel. Mais lui, il est parti en Russie, Paul-Henri, vais-je devoir le dire, il est parti à cause d'une histoire d'amour.
Ah! Donc ce géant qui manie les armes est aussi un homme amoureux parfois.
Ah, c'est un très grand amoureux, Paul.
Bon, d'accord, on va passer jeter un voile
pudique. Alors, comment il est passé de l'amour aux armes ?
Jeter un voile sur cette scène, oui, voilà. Comment il se retrouve dans une société de sécurité privée ?
Là, c'est effectivement, vous savez, on rencontre des gens, on a des amis, amis d'amis, on cherche un travail, et puis là, il y a quelqu'un qui vient vous dire, voilà, on recherche quelqu'un pour telle société de sécurité, tu ferais parfaitement l'affaire vu ton gabarit, on y va.
Les mafieux, vous en avez parlé tout à l'heure, les mafieux, pour lui, ce sont des ennemis, des partenaires, des concurrents. On va peut-être pouvoir comprendre tout ça en racontant une fête donnée par un oligarque. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Il s'appelle Paul-Henri Guiter, c'est un Français expatrié à Moscou et sa vie nous plonge dans la Russie interdite, souterraine. Notre invité Jean-Louis Bachelet l'a rencontré et coécrit son histoire. C'est quoi les codes de son univers aujourd'hui avec ce métier ? Les armes, la violence ?
Vous savez, poser la question à un commandant de la brigade des stupes, et je pense qu'il vous répondrait la même chose. Dès lors qu'on est confronté à des missions délicates, on a des attitudes qui ne sont pas forcément des attitudes de violence, mais qui sont des attitudes appropriées de force. Maintenant, non, ce ne sont pas ces codes. Moi, le code de Paul-Henri, que je connais depuis très longtemps, c'est bien plutôt, je dirais, l'amour du livre, l'amour de la chasse, l'amour du miel qu'il va récolter auprès de ses amis chasseurs quand il revient de la chasse, et puis surtout un goût éperdu pour l'aventure. C'est avant tout un aventurier, quelqu'un qui aime découvrir des choses nouvelles, des expériences nouvelles et effectivement des expériences limites.
Ouais, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est, moi, son job. Ben oui. Qu'est-ce qu'il fait concrètement ? Qui se coltine ? Dans quelle situation on l'appelle ? Et à quel moment il se retrouve avec cette arme, là, l'étoile noire ?
C'est très simple. Si par hasard, à un moment, par exemple, telle personne qu'il est chargé de protéger appelle depuis un parking souterrain.
Ouais.
Et qu'elle est en danger parce qu'il y a des gens qui la menacent. Eh bien, il intervient avec son groupe d'intervention rapide. Alors, très souvent, ça se passe très bien parce que, vous savez, c'est un petit peu comme dans le monde animal, finalement. Mmh. Hein. Vous avez trois gros bras qui rencontrent trois gros bras. Bon, lesquels sont les plus armés ? Si c'est le groupe d'intervention qui sont les plus armés, les autres s'en vont et puis c'est tout. Maintenant, ça peut se passer aussi très très mal. Il y a des fois où, effectivement, il faut décrocher les points. Ça, c'est sûr.
Et vous racontez l'une de ces histoires dans L'Étoile Noire, ce livre publié chez Artaud. Une mission pour un oligarque. On est à 35 km de Moscou. On va vraiment planter le décor. Est-il appelé et à quoi ressemblent les lieux où il arrive ?
Alors, vous savez, quand on sort de Moscou, c'est intéressant parce que Moscou est en pleine restructuration en ce moment. Enfin, ils ont presque fini, ça va très vite. Hein. C'est pas comme dans d'autres pays. En ce moment, par exemple, ils ont refait certaines rues, certains trottoirs, certaines façades, certaines églises. Ça va à une vitesse phénoménale. Et Moscou est une ville maintenant extrêmement nickel, propre, une ville vraiment lumineuse. Mmh. Quand on sort de Moscou, alors là on commence à trouver l'univers soviétique tel qu'il était, je pense, dans sa situation la plus dégradée. Donc c'est un univers très bigarré. Vous avez à la fois des demeures somptueuses qui, à l'intérieur, reflètent bien un petit peu ce mélange de kitsch, de désuet, de fausse modernité qu'on peut avoir dans les demeures russes maintenant. C'est très intéressant de voir ça. Ce sont des gens qui ont gardé une nostalgie de ce qui se faisait dans l'Empire russe, surtout pour essayer de faire un saut sur les 70 années avant. Aussi, même un côté un peu soviétique. Quelquefois, c'est-à-dire, un mauvais goût, qu'il peut y avoir. Et puis, juste à côté de ces demeures-là, vous allez avoir une usine de traitement de déchets, puis un monticule d'ordures. Voilà. Et au milieu de tout ça, une rue dans laquelle passent des autobus aux vitres cassées. C'est très intéressant, c'est un monde très bigarré.
Et alors, chez cet oligarque, ça ressemble à quoi ? Il y a des lits gigantesques, des jolies filles partout, Ferrari et des Lamborghini.
Alors effectivement, mais vous savez, je dirais que c'est une fête type. Donc, si vous voulez, c'est pas un cas unique, c'est un cas un petit peu général. L'oligarque moyen. Alors, d'ailleurs, le terme oligarque n'est plus accepté maintenant.
Oui, c'est quoi un oligarque ?
Un oligarque, c'est on devrait plutôt appeler ça un ploutocrate. C'est quelqu'un qui a à la faveur de la chute de l'Union soviétique, a amassé une grande quantité d'argent en faisant main basse justement sur les
matières premières.
Les économies énormes encaissées par l'État et sur les matières premières. Donc maintenant, ce sont des gens très riches, mais qui payent leurs impôts. Donc si vous voulez, ils sont acceptés. C'est ce qu'on appelle, on a dit tout à l'heure, les vols inconnus. Et ils ont naturellement toujours des fêtes qui sont incroyable. Alors dans cette fête que nous racontons dans le bouquin, vous avez cette maison avec ses intérieurs où vous pouvez à la fois trouver un buste de Lénine, vous pouvez avoir une icône du Christ d'André Roubleff, vous avez une piscine, vous avez à l'extérieur installé sur la pelouse d'immenses lits des kings. Alors les lits, vous allez me demander à quoi ça sert, mais ça sert pas
à tenir
debout.
C'est bien pour la sieste, ouais.
Voilà. Et puis des défilés de Lamborghini, de Bentley, de Ferrari.
Il vient pourquoi ? Pour sécuriser la fête ?
Il bien pour sécuriser la fête, parce qu'effectivement, l'oligarque, chaque fois qu'il y a une fête, vous savez, si vous faites venir 36 pp, les demi-mondaines sont très nombreuses dans cette fête, elles viennent rencontrer l'homme de leur rêve, ou l'homme de leur poche, je ne sais pas.
Ouais. et cette mission, elle va se terminer pistolet au poing, violemment, voilà. Pourquoi ?
Alors, très rapidement, à un moment, nous avons l'impression qu'un groupe s'est infiltré, un groupe de Géorgiens. Bon, effectivement, il faut savoir une chose, c'est que les groupes mafieux en Russie, la petite mafia, a la même mise sur, le monde du crime, hein, c'est-à-dire les casinos, les bordels. Ouais. Bon. Et puis, vous avez des groupes qui s'affrontent. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand tel groupe mafieux dit à tel casino, voilà, on te protège, mais tu nous donnes 20%. Si un autre groupe mafieux vient dire, écoute, tu laisses tomber ce groupe-là, il est moins bien que nous, tu vas nous donner l'argent à nous. Là, c'est l'affrontement. Donc, c'est ce qui se passe effectivement à ce moment-là.
Ce soir-là, il y a les Géorgiens contre les
Azéris.
Les Azéris.
Alors, vous savez, les Géorgiens, ce sont des gens déjà extrêmement robustes. Les Azéris ne le sont pas moins.
Donc, il y a notre petit Français, enfin il mesure 2 mètres, au milieu de tout ça, c'est ça ?
Alors il est là avec Arbi, son grand compagnon, Arbi qui est une figure de son groupe, qui est un garçon du FSB, qui est tchétchène et qui s'occupe des relations notamment entre la Tchétchénie et la Russie.
On ouvre une parenthèse, FSB c'est quoi ?
Le FSB c'est le service de sécurité intérieure russe, c'est l'ancien KGB.
Ok, on ferme la parenthèse et donc ils sont là
pour sécuriser
au milieu des deux groupes qui s'apprêtent à se...
Au départ il n'y a qu'un seul groupe, oui. Et puis effectivement... à un moment, on s'est aperçu qu'un autre groupe est rentré. Alors là, on se dit, oui, bon, vous savez, ils sont très reconnaissables. Hein. Quand vous avez des gens qui sont tous pareils, qui sont tous avec le même costume noir, les mêmes lunettes, ils sont là, on ne sait pas pourquoi. Et puis surtout, le pull rentré à l'intérieur du pantalon, en général, ça cache quelque chose. Ça signifie qu'il y a de l'attirail en dessous. Voilà. Quoi. Et donc, effectivement, cette anecdote qui nous a été rapportée est absolument incroyable. Vous avez à un moment, donc Paul-Henri, qui est là, qui voit un des Géorgiens parler avec une fille, une belle fille, hein, naturellement. La fille en question, c'est la femme de l'oligarque. Donc, c'est pas vraiment cool. Il va essayer de faire en sorte d'écarter la fille en question. Il va soudoyer le Géorgien pour qu'il se calme. Et dans l'intervalle, les Azéris arrivent. Et à partir de là, ça va être le bain de sang. C'est-à-dire que
Quoi, ils se tirent dessus ?
Les Azéris vont profiter de la distraction des Géorgiens pour leur tirer dessus. Ils vont en tuer 3. Et puis,
que fait Paul-Henri Guiter ?
Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est se jeter systématiquement. Naturellement, il faut imaginer la cohue. Hein, c'est un brouhaha épouvantable. Les gens qui sortent de partout, les hurlements. Le groupe se jette sur les gens qui ont tiré, plaquage au sol. Alors, ce qui est très amusant, c'est que vous savez, quand ils se plaquent au sol, ils ont tout de suite la posture réglementaire de la personne qu'on arrête, on voit qu'ils ont l'habitude, hein. Et en les fouillant, on s'aperçoit qu'ils ont tout un arsenal sur eux.
Voilà ce que peut être la mission de l'une des missions de Paul-Henri Guiter en Russie. Tiens, parmi vos rencontres communes, il y a aussi un mafieux qu'on surnomme Bondard. Là aussi, la rencontre vaut le détour. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est l'histoire d'un aventurier que l'on vous conte dans la curiosité, un Français qui a abandonné sa famille bourgeoise et ses études à Toulouse pour devenir aujourd'hui l'un des chefs d'un groupe de sécurité russe. Ses missions, agir là où la police ou l'armée ne peut pas forcément intervenir, venir. Et parmi les mafieux que vous avez rencontrés pour ce livre, Jean-Louis Bachelet, que vous avez écrit avec Paul-Henri Guiter, il y a un homme clé, il s'appelle Bondard, je vous laisse vous faire les présentations.
Alors Bondard, son vrai nom, Vitali Dymochka, c'est un chef mafieux extrêmement connu. Alors ce qui est extraordinaire, c'est son look et sa voix. Il faut voir cet homme sec, maigre, au regard vide, avec sa voix comme ça, qui vous parle extrêmement calmement, qui, à mon avis, devait donner les ordres de telle façon, et qui, lui,
c'est
a fait...
C'est le parrain, quoi.
Voilà. Fils d'ingénieur, qui a mal tourné, à l'université, détournement de fonds, puis ensuite diverses rapines, et puis pour finir, 18 ans de camp.
Ah oui, et donc c'est ce que vous nous décriviez tout à l'heure, c'est le camp de formation d'une certaine
Alors
façon.
Alors c'est ça, il a appris véritablement son métier de mafieux au camp. Pendant 18 ans, qu'est-ce qu'on fait là-bas quand on refuse l'ordre, tous les ordres possibles. Imagine, pas seulement le communisme, mais toute autorité. Mmh. Eh bien, on multiplie les actions de bravoure contre l'autorité précisément. Et puis alors, il y a un signe très distinctif de la part de ces gens-là en prison, qui est de se faire tatouer des étoiles noires sur les genoux pour montrer qu'on se met jamais à genoux devant personne. Donc Bondard, Dymochka, aussitôt sorti de prison, va organiser son groupe et naturellement, alors c'est la mafia, c'est la grande criminalité, mais de bas niveau. Hein, c'était casino, bordel, tout ce qu'on veut, quoi. Vol, voilà. Et lui.
Et meurtre. Parce qu'il bien a, sûr, il a évidemment, beaucoup de morts sur la conscience, ce
et en prison aussi, meurtre en prison. Alors, ce qui est très amusant dans le cas de Vitali Dimochka, c'est qu'il s'est repenti et il a décidé de passer au cinéma.
Et alors, il a raconté ça dans le livre, chez Artaud, c'est complètement dingue.
Mais derrière ou devant la caméra?
Mais comme cinéaste.
Mais alors, il faut raconter, qui recrute-t-il, quoi? Qui sont les acteurs de son film?
Pour faire un bon film sur la mafia, il faut prendre des bandits. Donc, il recrute des bandits. Et il organise de vraies casses, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont arrêter des voitures sur la route, ils vont casser le pare-brise à coups de batte de baseball, extirper le type de sa bagnole, tout en lui disant « t'inquiète pas mon gars, on va te rembourser ta bagnole, c'est pour les besoins du film ». Manque de bol, comme on n'a pas prévenu les autorités arrivent, et on remballe tout ce beau monde en tôle. Et vous entendriez Vitali Dimochka dire, dans une interview à la télévision russe, dire « c'était très dur le tournage, parce que la plupart de mes gars sont retournés en tôle, il y en a au moins trois qui ont été tués ».
Mais alors, à quelle occasion ils se sont rencontrés, Bondar et Paul-Henri Guittard?
Ils ne se sont pas rencontrés, c'est moi qui
l'avais rencontré.
Ah oui, ils n'ont jamais eu l'occasion de se confronter, en tout cas.
Mais vous savez, Paul-Henri, ça reste un aventurier très libre. Ce livre, on l'a écrit à quatre mains. C'est un petit peu... derrière le jeu, il y a tout un ensemble de choses qui sont notre histoire commune. Hein, donc, de ce point de vue-là, Bondar, oui, Bondar, c'est moi.
Il travaille donc pour une société privée d'intervention d'urgence que vous avez
créé. Groupe d'intervention d'urgence.
Donc voilà, un de ses boss est en danger, il appelle, il débarque avec ses gros bras. Est-ce que c'est bien payé, ça?
Alors là, écoutez, très sincèrement, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il habite dans le centre de Moscou, un petit appartement coquet. Donc je pense que c'est raisonnablement payé. Mais je ne connais pas son salaire, à la vérité.
Qu'est-ce qui l'excite dans ce métier, Paul-Henri Guittard, lui qui aime la littérature, la pensée, la philosophie? Qu'est-ce qu'il aime dans ce métier? C'est le contact, c'est la peur? Parce que vous nous décrivez quand même des scènes de violence, de tension, en tout cas, quand il n'y a pas de violence.
C'est un garçon qui aime l'aventure. Mais vous savez, un aventurier, c'est quelqu'un qui recherche l'extrême. Lorsqu'il part au Donbass, par exemple...
Alors le Donbass, il faut dire d'un mot où c'est...
Alors Donbass, région sud-est de l'Ukraine, région sujette à problème avec la Crimée parce que beaucoup de gens là-bas se revendiquent russes. Bref, région sujette à guerre civile. Surtout ne pas entrer dans le cadre politique, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est parti là-bas. Tout simplement parce que beaucoup de Russes, beaucoup d'anciens militaires, plutôt que d'aller à la pêche au moment de la guerre en Ukraine, se sont dit, on va aller au Donbass, simplement pour... comme ça, pour se battre. Non pas parce qu'on a un ennemi à abattre forcément, mais parce qu'on a envie de se battre.
Donc il a ça dans son ADN,
oui,
quand même.
Ça, c'est sûr. Il a ça dans son ADN, oui.
Donc c'est un personnage assez paradoxal. Au Donbass, il se fait passer pour un militaire, il s'habille comme un militaire, comment ça se passe?
Alors c'est très simple, quand il est parti au Donbass, il avait un congé, donc il a décidé de partir au Donbass simplement par esprit d'aventure. Il est parti sans aucun ordre de mission, il est parti sans aucun ordre de qui que ce soit.
Il est parti seul.
Voilà, il y a une guéguerre à la porte de la Russie, on va y aller.
Pour défendre les Russes quand même.
Alors c'est plus compliqué que ça, parce que la guerre, au moment où il l'a décrit lui, il faut savoir une chose, ça nous paraît totalement ahurissant à nous autres Français, mais au Donbass, à Donetsk en particulier, au moment où il y a les conflits, les gens qui se tirent dessus la journée se parlent le soir par Skype ou bouffent ensemble en disant « pourquoi tu as fait ça? Viens plutôt de notre côté, c'est mieux ». Donc c'est quand même une drôle de guerre.
Bon, donc on ne rentre pas effectivement dans les détails politiques. En tout cas, lui, il y va... Il participe au combat pendant plusieurs mois. Combien de temps reste-t-il là-bas?
Il est resté là-bas un certain nombre de mois, surtout au moment où ça pétait le plus et au moment où justement il y avait absolument, c'était bien avant les accords de Minsk, et donc du coup à un moment où la guerre revêtait un caractère profondément folklorique. C'était Mad Max. Vous savez, en Russie, l'arsenal est tel en matière d'artillerie, vous pouvez trouver un char dans n'importe quel hangar. Donc effectivement, là-bas, vous aviez des gens qui avaient un char, qui s'amusaient à faire des dérapages sur les routes. Vous avez des armes à tir à larigot. Donc effectivement, il y a eu un moment où il est allé là-bas parce que ça ressemblait tout simplement au héros qui l'aspirait. Corto Maltese, vous voyez, Corto Maltese, qui est un de ses héros favoris, est une des personnes qui aspirait ce départ.
Il a été
de
blessé.
Hugo Pratt,
Paul-Henri Guittard, il a été blessé pendant ses missions, de quelle manière?
Alors, dans le Donbass, il n'a pas été blessé, mais il a quand même failli se prendre un tir de gratte sur la figure. Les grattes, ce sont les orgues de Staline, les Katyusha, vous savez. Ça tire plusieurs missiles en même temps. Donc c'est tombé juste à côté de sa maison et il a échappé belle. Mais sinon, dans la plupart du temps, ça se... assez plutôt.
Pourquoi il est bon dans son métier, Paul-Henri Guittert? Il maîtrise un art particulier, un sang-froid, un art du camouflage.
Moi, quand il m'a un jour fait venir en taxi, il se trouve que le chauffeur de taxi avait mis un peu trop de temps. J'ai vu comment il parle le chauffeur de taxi. J'ai compris pourquoi il avait ce caractère un peu bellique. Effectivement, c'est quelqu'un qui a envie qu'on le respecte et qui n'aime pas trop les dérapages.
En tout cas, il est très russe en fait.
En fait, il est très russe. Ouais.
Est-ce qu'il se voit vivre vieux? Tiens, on va terminer avec ça.
Oui, Paul-Henri, mais il va vivre centenaire, il va m'enterrer moi-même d'ailleurs.
J'espère qu'il faut qu'il change de métier alors, non?
Pas forcément, vous savez, c'est, là encore, il faut se replacer dans ce contexte de cette Russie très complexe, où c'est pas les codes comme chez nous. Chez nous, on s'imagine que tout est cartoonesque, noir, blanc, et puis si on fait quelque chose de mal, on meurt. Non, c'est pas comme ça là-bas. On peut très bien vivre très vieux en ayant le métier de Paul-Henri.
Bon, d'accord.
Oui.
Un dernier mot, allez-y.
Je voulais en profiter pour dire bonjour justement peut-être à Vitaly Dymochka en russe, puisqu'il nous écoute.
Parce que les Russes nous écoutent ce soir, on nous écoute en Russie sur la Côte d'Azur.
Привет всем, мои друзья, я очень рад говорить с вами.
Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Parce qu'on ne sait jamais, on ne veut pas avoir de problème, nous.
Hein. Oui, parce que nous,
on n'assume pas tout. Hein.
On est juste journaliste, on pose des questions. Vous avez dit quoi?
Voilà, j'ai dit bonjour à tous mes amis, je suis très heureux de pouvoir vous parler.
Et ben voilà, c'était la Russie en direct sur RTL ce soir dans La Curiosité. Merci beaucoup Jean-Louis Bachelet, ce livre, L'Étoile Noire. Un aventurier au cœur de la Russie souterraine, c'est publié chez Artaud.
C'est la fin de cette émission. On vous recommande, on vous ordonne même de la podcaster et de la faire écouter à vos meilleurs ennemis.
Vous écoutez RTL.